Vous êtes historien. Votre thèse a été soutenue à l'EHESS en 2000 sur la génération des penseurs religieux de l'émigration russe autour de la revue La Voix. Ça, c'est une thèse d'histoire, 1925-1940. Vous avez été attaché de coopération au ministère des Affaires étrangères, puis directeur du Collège universitaire français de Moscou, puis attaché de coopération éducative à Kiev et directeur adjoint de l'Institut français d'Ukraine. Vous êtes actuellement co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la pensée chrétienne, orthodoxe, au personnalisme, aux relations entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez enseigné dans plusieurs universités européennes, américaines. Vous vous intéressez particulièrement à l'histoire des religions, au dialogue interreligieux, et c'est dans cet esprit que vous avez créé, que vous participez à la direction de l'Institut d'études œcuméniques au sein de l'Université catholique d'Ukraine. Vous participez activement à la diffusion de la pensée ukrainienne en France et en Europe à travers de nombreuses associations dont vous êtes fondateur ou administrateur ou les deux. Vous êtes membre fondateur de la commission Vérité, Justice et Réconciliation Russie-Ukraine avec la médiation de l'Union européenne. Votre profonde connaissance de la question ukrainienne, votre patrie, et le regard à la fois lucide et raisonnable que vous portez sur elle, nous a tout naturellement incité à vous demander cette analyse, cette conférence. Merci beaucoup. Je vous donne la parole.
Bien. Monsieur le secrétaire perpétuel, chère madame, chère Chantal, c'est un honneur et une joie de pouvoir m'exprimer devant vous. Je suis particulièrement reconnaissant à madame Chantal Delsol pour cette invitation. Ensemble, en effet, nous réfléchissons depuis longtemps à l'évolution de l'Europe centrale et de l'Ukraine en particulier. C'est sous sa direction et celle de Mme Johanna Novitsky que j'ai invité, il y a quelques années, un certain nombre d'intellectuels ukrainiens à contribuer à enrichir le dictionnaire encyclopédique « La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale » depuis 1945, paru au CERF en 2021. Voilà ce livre. Dans l'article que j'ai moi-même rédigé sur l'intelligentsia en Europe centrale, j'avertissais du fait que les luttes à venir en Europe opposeraient l'homo sovieticus, l'homo postmodernis et l'homo spiritualis. L'extension de la guerre russo-ukrainienne à la confrontation entre la Russie et l'Occident aujourd'hui ne fait que confirmer cette thèse et nous invite à nous intéresser de plus près à l'homo spiritualis, afin de trouver des voies de dépassement du conflit. J'interviens aujourd'hui devant vous à un moment historique, celui heureux de l'accord unanime des pays européens le 23 juin dernier de donner à l'Ukraine le statut d'adhérent à l'Union européenne, mais aussi celui tragique de la guerre que mène la Russie contre l'Occident démocratique. Cette guerre a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass par la Russie. Elle s'est étendue cette fois à toute l'Ukraine le 24 février dernier. Aujourd'hui, la Russie menace ouvertement d'invasion des pays européens comme la Lituanie. Même si ces statistiques sont encore discutées, tout nous autorise à penser que depuis février dernier, plus de 60 000 personnes, civils et soldats, russes et ukrainiens, sont décédés en Ukraine. On compte trois fois plus de blessés, soit plus de 180 000 personnes. Chacun a vu à la télévision les images des massacres de Boutcha et d'Irpine, a entendu les récits des femmes ukrainiennes violées par des soldats russes devant leurs enfants, des enfants kidnappés et envoyés de force en Russie, des fours crématoires portatifs employés par l'armée russe pour masquer ses crimes. Plus de 7 millions d'Ukrainiens ont été forcés d'abandonner leur foyer pour se réfugier à l'étranger. Cette guerre dispose dès à présent d'une portée mondiale en raison du blocus des ports ukrainiens de la mer Noire qui menace de provoquer une famine pour plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde. Il est donc essentiel de chercher à comprendre les sources et la nature de ce conflit devenu planétaire. Pour avoir vécu plus de 17 ans en Russie et en Ukraine et pour avoir également organisé en France une commission de dialogue entre Russes et Ukrainiens en 2018-2019, je réfléchis à ce conflit depuis longtemps. Aussi, permettez-moi de vous proposer une clé de lecture théologico-politique de la guerre dont nous sommes à la fois, qu'on le veuille ou non, les témoins et les acteurs. Dans un premier temps, je vais présenter cette clé explicative, donc théologico-politique, à savoir l'affrontement de deux visions du royaume de Dieu, l'Empire et l'État-nation. Malheureusement, cette clé est difficilement compréhensible par notre post-modernité. Elle est donc terriblement absente des raisonnements de la plupart des diplomates et des médias français. Aussi, dans un deuxième temps, je présenterai brièvement en quoi l'Ukraine est bien un État-nation en cours de formation défiant l'impérialisme russe. J'insisterai, dans un troisième temps, sur la dimension ecclésiale et spirituelle de ce conflit que notre diplomatie, pour qui j'ai beaucoup de respect, et néanmoins, cette diplomatie a beaucoup de mal à comprendre cette dimension spirituelle. Enfin, je dirai quelques mots sur les voies spirituelles, précisément, de sortie de cette guerre que mène la Russie à l'Ukraine et au monde moderne. L'Occident postmoderne redécouvre le tragique de l'histoire et doit dépenser maintenant des sommes astronomiques pour armer les Ukrainiens. Alors que s'il avait investi sur la dimension historique et spirituelle de ce conflit, il n'en serait assurément pas là. Tout se passe en effet comme si une élite intellectuelle était aveuglée par l'héritage de Machiavel, pour qui l'histoire était guidée par un fatum indépassable au sein duquel règne la loi du plus fort. Mais seule une critique théologique du politique permet de dévoiler les erreurs d'une telle vision du monde et de réhabiliter la puissance de l'esprit et du droit. Premier point, donc, la nouvelle guerre de civilisation. Le principal point d'accord entre les membres de cette commission, Vérité, Justice et Réconciliation, qui a publié un rapport en 2019 avec 10 propositions et qui a réuni plus de 200 intellectuels de Russie, d'Ukraine et d'Europe occidentale, le principal point d'accord fut de reconnaître que le conflit russo-ukrainien était une guerre de civilisation entre, d'une part, une volonté de rétablir en Russie la théologie politique de l'Empire et, d'autre part, le désir puissant des Ukrainiens d'affirmer la puissance de l'État-nation démocratique. Il ne s'agit pas d'une guerre entre deux nations à proprement parler, puisque vous trouverez des défenseurs de l'Empire en Ukraine et des démocrates convaincus en Russie. Comme l'a affirmé le président Zelensky le 9 mai dernier sur le Kréchatik à Kiev, il s'agit d'un conflit entre deux visions du monde. Il y a d'un côté ceux qui considèrent que la nation doit se fondre dans un ensemble plus vaste dans lequel l'unité est assurée par l'empereur, unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, et par la devise tsariste, orthodoxie, autocratie et sentiment populaire. Il y a d'un autre côté ceux qui estiment qu'une nation ne peut s'accomplir qu'en s'ouvrant à la puissance de l'esprit et qu'en trouvant par voie de conséquence une juste distance et une juste coopération entre le pouvoir temporel, qu'il soit politique ou religieux, et l'autorité spirituelle. Il se trouve que nous, Français, nous connaissons bien ce débat. En effet, Français et Allemands ont combattu durement en 1870, car les uns et les autres se disaient les uniques héritiers légitime de l'Empire carolingien. Chacun sait qu'après la défaite de Sedan de Napoléon III, eut lieu la proclamation de l'Empire allemand à Versailles le 18 janvier 1871. Le chancelier Otto von Bismarck résuma ce double événement dans ses mémoires par la formule « Sans Iéna, pas de Sedan ». La chute du Second Empire en France le 4 septembre 1870 et la réunification de l'Allemagne l'année suivante furent bien les conséquences de l'humiliation provoquée par la victoire des armées napoléoniennes à Iéna le 14 octobre 1806. Or, ce conflit était de nature théologico-politique. En effet, actualiser le Saint-Empire, c'est vouloir incarner une certaine vision de l'Église. Pour l'empereur, cela signifie se faire le lieutenant de Dieu, le contemporain du Christ. Adolf Hitler, lui aussi, n'a eu de cesse entre 1933 et 1945 que de vouloir faire advenir le Troisième Reich, c'est-à-dire la troisième incarnation historique du Saint-Empire romain germanique. Dès 1882, pourtant, le républicain français Ernest Renan avait trouvé la clé capable de mettre à terre cette idéologie impériale, en France comme en Allemagne. Le 11 mars 1882, dans une conférence prononcée à la Sorbonne, il répondit de la façon suivante à la question « Qu'est-ce qu'une nation ?» Je le cite « L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit d'exister. Si des doutes s'élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d'avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre. » Fin de citation. Renan se moquait des transcendants de la politique, entendait de tous ceux qui ne rêvaient que de cette théologie de l'Empire. Mais lui-même proposait bien une nouvelle théologie œcuménique au sens universel de la nation. Celle qui reposait sur les trois principes que venait de restaurer la Troisième République, liberté, égalité, fraternité. Grâce à elle, il devenait possible de penser que des régions germanophones et protestantes, comme l'Alsace et la Lorraine, puissent faire partie de la nation française si elles faisaient librement le choix de la Respublica plutôt que celui de l'Empire. Reconnaître la liberté souveraine des peuples, justifier le corps politique de la nation tel qu'il apparaît jusque dans l'Apocalypse, c'était bien entendu poser une vérité théologico-politique nouvelle. Même si en histoire, comparaison n'est pas raison, des analogies sont néanmoins possibles. Il arrive à la Crimée et au Donbass le même sort tragique que celui subi par l'Alsace et la Lorraine. De la même façon que contre Renan, une statue de Charlemagne réalisée en 1867 fut érigée en 1882 devant la cathédrale Notre-Dame. Vladimir Poutine a inauguré une statue de Saint Vladimir, le prince de Kiev, en face du Kremlin en 2014. Dans un cas comme dans l'autre, on trouve le même type de conscience historiographique mythologique qui consiste à faire croire que l'État en place est l'unique et exclusif héritier légitime du Saint-Empire romain fondé par l'empereur Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ. Les Ukrainiens ont refusé au XVe siècle cette vision impériale héritée de Byzance et ont choisi un autre modèle, proposé cette fois par le Concile de Florence, d'une construction nationale fondée sur une conception œcuménique et non pas impériale de l'Église. Plus tard, leur plus grand philosophe, Grigoris Kovoroda, qui vécut entre 1722 et 1794, proposa lui aussi une alternative puissante à la symphonie byzantine. Pour cet ancien élève de l'Académie Mogila, les nations ne pouvaient se construire que sur une base éthique et œcuménique. À l'inverse, côté russe, mais non sans l'influence de penseurs ukrainiens comme Théophane Prokopovitch, pour favoriser l'avènement du royaume, l'État se devait d'incarner le Dieu Tout-Puissant. L'État russe avait pour mission de rétablir le Saint-Empire, la Troisième Rome. Le 10 juin dernier, Vladimir Poutine a justifié sa conquête de l'Ukraine en s'inscrivant précisément dans l'héritage de l'empereur Pierre le Grand. Je le cite. « Pierre le Grand a mené la Grande Guerre du Nord pendant 21 ans. On raconte qu'il a été en guerre avec la Suède, qu'il leur a pris quelque chose. Or, il ne leur a rien pris. Il n'a fait que récupérer ce qui appartenait à la Russie. Il semble qu'il nous incombe également de récupérer ce qui appartient à la Russie et de renforcer le pays. Et si nous partons du principe que ces valeurs fondamentales, que ces valeurs fondamentales constituent la base de notre existence, nous parviendrons certainement à résoudre les problèmes qui se dressent devant nous. » Fin de citation. Fort de ce constat, donc, de la nature théologico-politique du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, mais aussi au reste du monde, dès 2019, notre commission Vérité, Justice et Réconciliation s'est accordée sur une première proposition de construction de la paix. Pour nous, les historiens russes et ukrainiens devraient suivre l'exemple des historiens français et allemands qui ont publié en 2006 un manuel d'histoire, débarrassé, le manuel franco-allemand, débarrassé de la mythologie impériale et fondé sur la méthode des regards croisés. En s'appuyant par exemple sur l'héritage de Georges Duby avec son livre « La bataille de Bouvines ». C'est en sortant des récits mythologiques dépendants de l'idéologie impériale qu'on devient en mesure de reconnaître la réalité distincte des consciences nationales, ukrainiennes et russes. Voyons donc désormais, puisque c'est le point aveugle de l'historiographie russe, en quoi il existe bien une conscience nationale ukrainienne spécifique et légitime à se dire aussi l'héritière de la Rousse de Kiev. L'histoire des relations entre l'Ukraine et l'Europe est millénaire si l'on tient compte de ce lien de continuité mémorielle, mais non exclusif, entre la Rousse de Kiev et l'Ukraine. Dans cette perspective, le baptême en 988 de Vladimir, grand prince de la Rousse de Kiev et de tout son peuple dans les eaux du Dniepr, représente une date symbolique marquant l'entrée de la Rousse dans l'histoire de la conscience européenne. Ainsi, par exemple, Anne de Kiev, la petite fille de Vladimir et la fille du grand prince Yaroslav le Sage, épousa à Reims le roi Henri Ier et devint à sa mort la reine des Francs de 1051 à 1060. Au XIIIe siècle, le puissant état de la Rousse de Kiev, qui s'étendait de la cité de Novgorod au nord à celle de Khersonèse en Crimée, fut brisé par l'invasion tatare. Comme l'ont très bien raconté les historiens russes et ukrainiens contemporains Andrei Zubov et Arkady Joukovsky, les nations russes, biélorusses et ukrainiennes sont apparues progressivement au XVe, XVIe siècle comme trois réponses distinctes à cette invasion. L'invasion des Tatars dans les années 1240 suscita en effet des réactions différentes de la part des principautés roussines. L'attitude d'ouverture à l'Europe catholique et de lutte contre l'envahisseur du prince Danilo de Galicie parvint à repousser les Tatars, mais conduisit cependant à la lente absorption de la Galicie et de la Volhynie par la Pologne et la Lituanie entre 1240 et 1362. Tandis que la Moscovie, mais aussi Tver et Toula, entrèrent sous la domination directe des Tatars jusqu'en 1480 en raison du choix de collaboration avec les Tatars effectué au XIIIe siècle par le prince de Kiev, Alexandre de la Neva. Sur un plan ecclésial, le moine Pierre de Voligny fit le même choix. Alors qu'il se trouvait à Vladimir, il fut désigné en 1308 par le patriarche de Constantinople, métropolite de Kiev. Or, il fit le choix de résider à Moscou à partir de 1325. Il devint ainsi le premier métropolite de Kiev et de toute la Rousse à résider à Moscou. Deux métropolites, donc, se dirent alors héritiers de la Rousse de Kiev, l'un à Moscou et l'autre à Halych, puis à nouveau à Kiev. Dès lors, le nom de Rousse inférieure, Mikra-Rossia, fut donné à ces régions à l'ouest du Dniepr par les Byzantins en 1303, à l'occasion de la refondation du siège métropolitain de Kiev en Galicie et Volhynie. Tandis que la Rousse supérieure, Makra-Rossia, désigna désormais la Moscovie. Malgré les différences de traitement et de durée d'occupation du pouvoir tatar, il subsista jusqu'au XVIIe siècle, sur les terres de la Rousse, du sud et du nord, une conscience partagée d'appartenir au même espace-temps politique et théologique. Les boyards et les évêques orthodoxes moscovites envisageaient encore possible, en 1610, que Ladislas, un prince polono-lituanien, reçoive le trône de Moscou, à condition cependant de sa conversion à l'orthodoxie. Mais une rupture importante s'était produite au XVe siècle. À Kiev, sous domination polonaise, l'Église locale accepta le concile de réunification du concile de Florence. Tandis qu'à Moscou, en 1440, le métropolite Isidore de Kiev fut jeté en prison par le grand prince Vassili II pour avoir signé l'accord de réconciliation avec Rome. Le choix des Roussines du Nord était de s'émanciper des Grecs pour construire leur propre église, seule capable de fonder leur identité nationale spécifique et de se libérer des Tatars. C'est pourquoi, sous la pression du grand prince, l'église de Moscou se déclara autocéphale en 1448, ce qui fut reconnu par Constantinople en 1588. L'église en Moscovie commença alors à prendre son indépendance par rapport au pouvoir politique. Ceci prépara l'établissement de l'Empire par Ivan le Terrible, qui fut couronné tsar en 1547. Ainsi, à partir de 1453, date de la chute de Constantinople, la deuxième Rome, la conscience roussine se fractionna en trois : celle de la Rousse moscovite et autocratique, celle de la Rousse lituanienne, puis polono-lituanienne et aristocratique, enfin celle de la Rousse cosaque, moins développée et organisée, mais plus démocratique, partagée par les habitants s'étant fixée au sud, le long du Dniepr et du Don. Ces chrétiens ukrainiens cosaques purent maintenir leur double communion à Rome et à Constantinople jusqu'en 1596, ce qui partout ailleurs en Europe était devenu impossible. Encore en 1630, le métropolite orthodoxe de Kiev, Pierre Mogila, signait une confession de foi qui se voulait fidèle à l'union du Concile de Florence. Mais après le traité de Pereiaslav de 1654, entre le tsar Alexis Ier et les cosaques de Bogdan Khmelnytsky, et surtout après l'occupation de Kiev par l'armée russe en 1686, les métropolites de Kiev furent désormais désignés par le patriarche de Moscou et non plus par ceux de Constantinople. Après la victoire de Pierre le Grand le 27 juin 1709, contre l'armée de Charles XII de Suède, unie aux Cosaques de Mazepa, la conscience nationale ukrainienne, qui ne rêvait que d'indépendance à l'égard de ses voisins du Nord, de l'Ouest et du Sud, dut se soumettre à la conscience nationale russe pendant trois siècles. Elle ne rêvait que d'empire. Malgré cette situation d'infériorité de la conscience nationale ukrainienne, qui dura trois siècles, son identité propre fut maintenue et même clairement reconnue à l'époque moderne par un certain nombre d'Européens, et notamment par deux Français. Dès le XVIIe siècle, en effet, un ingénieur français en mission auprès du roi de Pologne, Guillaume Levasseur de Beauplan, rédigea la première, je cite, « description d'Ukraine » et publia la première carte d'Ukraine en 1648. Au siècle suivant, c'est Voltaire, dans son histoire de Charles XII, publiée en 1727, qui perçut le drame historique de la nation ukrainienne. Je le cite. L'Ukraine, écrivait-il, a toujours aspiré à être libre. Mais étant entourée de la Moscovie, des États du Grand Seigneur, c'est-à-dire de l'Empire ottoman, et de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur et par conséquent un maître dans l'un de ces trois États. Elle se mit d'abord sous la protection de la Pologne, qui la traita trop en sujette. Elle se donna depuis aux Moscovites, qui la gouverna en esclave autant qu'il le put. D'abord, les Ukrainiens jouirent du privilège d'élire un prince sous le nom du général, mais bientôt, ils furent dépouillés de ce droit et leur général fut nommé par la cour de Moscou. Fin de citation. La domination coloniale de l'Empire russe sur l'Ukraine se renforça surtout après les partages de la Pologne et la guerre de Crimée, perdue pourtant en 1856 par Nicolas Ier contre les Français et les Anglais. À partir de cette date, les Russes occupèrent non seulement ce qu'ils appelaient la Petite Russie, cette Mikra-Rossia, mais interprétée autrement, mais aussi la Volhynie, et donc, à partir de 1856, la presqu'île de Crimée. Ainsi, on ne peut pas affirmer, comme l'a fait Vladimir Poutine le 24 février dernier, que l'Ukraine n'aurait pas disposé de souveraineté avant 1922. Comme l'a bien montré l'historien russe Michel Heller, dans son histoire de la Russie et de son empire, il y a bien eu un État cosaque ukrainien dès le XVIIe siècle. En fait, l'émergence progressive des deux cristallisations nationales, russe et ukrainienne, a été contrariée et non pas favorisée par la création de l'Union soviétique en 1922. Malgré ce qu'a pu dire encore une fois Vladimir Poutine pour justifier sa nouvelle invasion de l'Ukraine en 2022, l'Ukraine ne doit rien à Lénine. Au contraire, le bourreau des aspirations de l'Ukraine fut le premier secrétaire général du Parti communiste. Rappelons en effet que les Ukrainiens créèrent, dès le 17 mars 1917, la Rada centrale, dont Mikhailo Hrouchevski devint président le 27 mars et le resta jusqu'au 29 avril 1918. Le 20 novembre, la Rada centrale proclama la République populaire ukrainienne, reconnue par la France et la Grande-Bretagne en janvier 1918, et déclara son indépendance le 22 janvier 1918. C'est l'offensive des bolcheviks qui contraignit le gouvernement ukrainien à quitter Kiev en février 1918. Ajoutons à cela que les Ukrainiens ont été les premières victimes du pacte Molotov-Ribbentrop, puisque, selon les protocoles secrets, Staline et Hitler ont convenu, le 24 août 1939, de se partager ces terres de sang dont parle Timothy Snyder, qui figuraient entre leurs empires, à commencer par la Galicie, qui fut sauvagement occupée par l'armée soviétique dès le mois de septembre 1939. Ceci permet de comprendre pourquoi, dans un premier temps, les Galiciens ont accueilli en libérateur la Wehrmacht en juin 1941, avant de rapidement déchanter dès 1942, au bout de quelques mois. En raison de sa mythologie centrée sur une fausse historiographie, du lien exclusif de la Rousse de Kiev à la Fédération de Russie, Vladimir Poutine a promis de venger le déboulonnage des statues de Lénine qui s'étaient produites en Ukraine en 2014 après la Révolution de la Dignité. Dans son discours d'invasion du 24 février, il a même affirmé que si les Ukrainiens ne voulaient plus de Lénine, alors ils devraient en tirer toutes les conséquences. Ceci signifiait pour lui que les Ukrainiens devaient redevenir une colonie de l'Empire russe. Le président Medvedev, l'ancien président de Russie, est même allé jusqu'à affirmer qu'il fallait éradiquer toute forme d'ukrainité. En réaction, le Parlement ukrainien a voté dès le mois de mars une résolution condamnant le projet génocidaire de l'État russe contre la nation ukrainienne. Il y a une vraie perversité dans les discours des autorités russes sur le caractère prétendument nazi des responsables politiques russes, car chacun sait que le président Zelensky est lui-même de tradition juive et que les Ukrainiens n'ont pas élu un seul député nationaliste aux dernières élections législatives à la Rada. En réalité, la vérité est bien plus sombre. Les Russes appliquent la technique du miroir, bien connue des manuels de propagande soviétique. Ils accusent les Ukrainiens de crimes qu'ils accomplissent eux-mêmes afin de se présenter comme des victimes en position de légitime défense. Comme l'écrit l'historien américain Timothy Snyder, c'est l'État russe qu'il faut aujourd'hui considérer comme fasciste. Et j'ajouterai que, pas plus tard qu'hier, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l'Occident de mener une guerre contre la Russie, un Occident qu'il comparait à l'État nazi. Puisque notre thèse est que ce conflit russo-ukrainien est en réalité un conflit d'ordre théologico-politique qui déborde de son cadre et oppose l'ensemble du monde occidental aux puissances néo-impériales, il convient d'accorder une attention particulière désormais à la dimension ecclésiologique de cette guerre. D'autant plus que c'est probablement le principal point faible du monde occidental que d'avoir remisé sur de vieilles étagères toutes les discussions théologiques qui s'intéressent à la nature, aux missions et aux frontières de l'Église. Or, ce n'est pas en se débarrassant de la théologie qu'on peut lutter contre les hérésies. C'est au contraire en faisant de la meilleure théologie qu'on parvient à gagner les guerres dont Nietzsche avait prophétisé qu'elles deviendraient des conflits spirituels. Le patriarche orthodoxe, Kirill Gundiaïev, lui, ne se prive pas d'affirmer que la guerre que mène la Russie contre l'Occident collectif est une guerre métaphysique. D'un côté, il y a pour lui le monde des gay pride, qu'il qualifie de monde décadent. De l'autre, il y a la Sainte Russie, qui par sa réhabilitation du monde russe est en mesure de construire un espace sacré à l'intérieur duquel peut s'accomplir le royaume de Dieu sur la terre. Selon cette vision, après la chute de Byzance en 1453, seule l'Église russe est en mesure de préparer la venue du royaume. Cette conception impériale de l'identité russe dépasse la seule figure de Kirill. Alexandre Chipkov, le premier vice-président du département synodal pour les relations de l'Église russe avec la société et les médias, a publié en 2016 un texte intitulé « La géographie sacrée de la Russie », des Solovki à Khersonèse, pour justifier le retour de la presqu'île au sein de la Fédération de Russie. Son article commence par une justification des propos du président Poutine à propos de l'annexion de la Crimée réalisée le 18 mars 2014. Je le cite. « Khersonèse est la porte d'entrée de la Russie vers la Byzance historique. Ici, le prince Vladimir a passé le point de bifurcation, une bifurcation historique. Soit dit en passant, tout le chemin du prince Vladimir, si l'on tient compte de ses points sacrés, c'est Novgorod, Kiev, Khersonèse. » Et retour. Fin de citation. Le patriarche Kirill est néanmoins le principal idéologue du monde russe, Ruski Mir. Selon sa théorie, l'Ukraine, le Biélorusse, mais aussi la Moldavie, ne disposent pas d'indépendance politique dans la mesure où elles appartiennent à une même ethnie mythifiée et donc au même espace civilisationnel. Cet espace est selon lui dicté par l'appartenance à la foi orthodoxe, par la diffusion de la langue russe et par une culture commune marquée par des siècles. Lors du premier dimanche du Grand Carême, le 13 mars 2022, le patriarche a une nouvelle fois justifié l'invasion de l'Ukraine et béni les troupes russes au nom de cette ecclésiologie ethnophilétiste. Je le cite. « Que le Seigneur préserve notre Église, fortifie notre peuple et nous aide tous, peuple orthodoxe russe. Je le répète, quand je dis russe, je veux dire les mots « d'où vient la terre russe » de la chronique des temps passés. Je prie pour tous ceux qui vivent en Ukraine, en Biélorussie, dans notre pays russe, pour que nous soyons tous unis dans l'esprit et que nous maintenions l'unité dans la foi. » Il y a donc bien une confusion entre la Russe et la Russie. Cette conception ethnique et impériale de l'Église est hérétique depuis que l'évêque arien Eusèbe de Césarée a fait de l'empereur Constantin l'unique médiateur de Dieu le Père sur la terre. Au XVIe siècle, le métropolite Philippe II de Moscou a rappelé au tsar Ivan le Terrible, qui se croyait lui aussi l'unique lieutenant de Dieu sur la terre, cette vérité évangélique selon laquelle personne ne pouvait se mettre au-dessus de la vérité du Christ. Mais il fut assassiné par les sbires du tsar Ivan le Terrible en 1567. Depuis, l'Église russe n'eut plus les ressources suffisantes pour s'opposer au pouvoir impérial. Sauf une courte période entre 1917 et 1925, au moment où fut élu le patriarche Tikhon par le Concile de Moscou, ce qui fut à l'origine du renouveau de l'ecclésiologie orthodoxe au sein de l'émigration russe à Paris, principalement, avec l'Institut Saint-Serge, rue de Crimée. Dans cette conception renouvelée de l'ecclésiologie portée par les théologiens tels que le père Serge Bulgakov, l'Église est une réalité non pas impériale, mais divino-humaine. Elle doit à la fois être indépendante de l'État et en même temps être en mesure de coopérer avec lui au nom du bien commun. Elle doit être à la fois baptismale, c'est-à-dire ouverte à tous les baptisés, quelles que soient leurs origines, eucharistique, centrée sur le symbole de foi et non pas sur la foi du prince, cuius regio et ius religio, et pastorale, c'est-à-dire capable de préserver les liens existants entre les communautés nationales et culturelles et leurs pasteurs, où qu'ils soient. L'idée byzantine selon laquelle le patriarche et l'empereur devaient collaborer ensemble, au motif que le premier était en charge des corps et le second en charge des âmes, fut contredite par le rappel que toute autorité sur la terre comme au ciel a été confiée par le Christ, a été confiée par le Père au Christ, selon l'évangile de Matthieu. Or, l'ascension du Christ ne signifie pas son effacement, mais une nouvelle forme de présence et d'action très réelle de Dieu sur terre, mais accessible uniquement par la foi de chaque individu. La vieille théorie de la symphonie byzantine vola en éclats dès la révolution de février de 1917, lorsque Kartachov, un ami de Bulgakov, devint le premier ministre des cultes et supprima la situation de dépendance de l'Église à l'égard du pouvoir du tsar. Autant dire que cette ecclésiologie nouvelle était fondamentalement œcuménique et fidèle à la tradition plurielle des églises apostoliques. C'est en vertu de ce renouveau ecclésial que le patriarche Bartholomée de Constantinople a décidé d'agir en 2018-2019 pour accorder l'autocéphalie, la capacité à élire son propre chef à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Cette Église, en effet, la plus nombreuse en Ukraine, avec plus de 15 millions de fidèles, demandait son autocéphalie depuis des décennies. Bartholomée était conscient également que la non-reconnaissance de cette Église affaiblissait la nation ukrainienne face à l'État russe qui avait annexé la Crimée en 2014. Le patriarche a refusé l'argument strictement politique selon lequel l'Église ukrainienne ferait partie du territoire canonique du patriarcat de Moscou. En effet, l'Église d'Ukraine, d'une part, est le fruit de la mission byzantine depuis le IXe siècle jusqu'au XVIIe siècle, et d'autre part, l'accord qui fut trouvé en 1686 entre Moscou et Constantinople pour la nomination des métropolites de Kiev, était conditionné au respect de la primauté de Constantinople dans l'ordre de préséance des Églises. Or, ceci ne fut plus respecté ni par le métropolite de Kiev, dépendant de Moscou, ni même par le patriarche de Moscou, qui osa même défier en 2016 le patriarche de Constantinople en refusant de se rendre au concile panorthodoxe de Kolymbari, en Crète, en 2016. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe ukrainienne, qui était restée fidèle au patriarcat de Moscou, a décidé elle-même de larguer les amarres et de s'émanciper de toute dépendance juridique à l'égard de l'Église russe. Nul ne peut prédire aujourd'hui combien de temps il faudra pour que l'Église orthodoxe d'Ukraine, l'Église orthodoxe ukrainienne et l'Église gréco-catholique ukrainienne retrouvent le chemin du dialogue et de la convergence vers leur héritage commun. On peut en revanche considérer que l'ecclésiologie œcuménique repensée par les théologiens de l'école de Paris a plus de chances d'être mise en œuvre en Ukraine qu'en Russie. Ceci représenterait une véritable source de renouveau pour l'Église tout entière, y compris pour le patriarcat de Constantinople, lui aussi marqué par l'héritage byzantin. Car ce modèle de la divino-humanité repose sur la représentation de l'Église comme épouse de l'agneau, selon la vision de l'évangéliste Jean dans l'Apocalypse. Il permet de sortir d'une vision sacralisée et cléricale de l'Église, sans pour autant tomber dans une conception agnostique ou déiste de l'âge séculier. Ce modèle permet de comprendre l'Église à la fois comme temple de l'Esprit-Saint, comme corps du Christ, comme arche du salut et comme maison du Père. Il convient d'ajouter encore un point d'ordre théologique capital pour saisir comment les théologiens et philosophes orthodoxes russes de l'école de Paris sont parvenus à s'émanciper de l'ecclésiologie impériale et à soutenir la démocratie comme Nicolas Berdiaïev. En effet, l'ecclésiologie impériale ne repose pas seulement sur une fausse historiographie et sur une représentation déséquilibrée du mystère de l'Église. Plus fondamentalement encore, elle dérive d'une spiritualité monophysite. Selon cette hérésie, tout événement historique est le fruit de la volonté divine, puisqu'il n'existe pas à proprement parler de liberté humaine. C'est la raison pour laquelle l'écrivain russe Dostoïevski fut à la fois fasciné et horrifié par les prières des Startsy d'Optina Poustigne. Cette prière est la suivante. Seigneur, quelles que soient les nouvelles au cours de cette journée, donne-moi de les recevoir dans la paix et avec une ferme conviction que ta sainte volonté est sur toute chose. Fin de citation. Cette prière faisait de Dieu le complice du mal sur la terre, celui qui autorisait, voire même provoquait, la violence. Les philosophes religieux russes refusèrent d'admettre cette gnose. C'est Ivan Karamazov en particulier. Cette gnose du Dieu mauvais. Nicolas Berdiaïev rédigea en 1923 un ouvrage sur l'œuvre de Dostoïevski pour dénoncer cette théorie et expliquer que, comme le dit le prophète Habakkuk, les yeux de Dieu sont incapables de voir le mal. Récemment, un théologien français, Jean-Dominique Garrigue, a rappelé lui aussi que s'il est bien vrai que le Christ a dit à ses disciples que même les cheveux de votre tête sont tous comptés, cela ne signifiait pas pour autant que la sagesse de Dieu pouvait s'accomplir de façon automatique, sans la participation humaine. En effet, dans le livre des rois, les paroles du roi Salomon, auxquelles se référait le Christ, conditionnent l'action de Dieu à la vertu humaine. Je cite le livre des rois. « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Le peintre d'origine ukrainienne, Ivan Répine, a su montrer l'absurdité de la théologie politique monophysite, qui interprète de façon littérale l'épisode biblique de Dieu exigeant d'Abraham le sacrifice d'Isaac. Dans une célèbre toile, il présenta, qui est à la galerie Tretiakov, il présenta Ivan le Terrible, épouvanté d'avoir assassiné son propre fils au nom de sa prétendue toute-puissance. Volodymyr Zelensky n'a pas manqué de relever cette scène dans la série bien connue « Serviteur du peuple »« Sluga narodu » qu'il enregistra en 2015-2016, bien avant, donc, de devenir président d'Ukraine et commandant en chef des armées. Lors d'un épisode de cette série, Rolo Borodko, le professeur d'histoire devenu président d'Ukraine, joué par Zelensky, rencontre Ivan le Terrible et, imitant parfaitement la toile de Répine, tombe d'effroi dans les bras du prince assassin. J'en viens à ma dernière partie. Comment arrêter cette guerre si on a bien compris cette clé théologico-politique? Si notre analyse est juste, alors nous sommes mieux préparés, j'allais dire nous sommes mieux armés pour répondre à cette question. Comment arrêter cette guerre de civilisation en passe de se transformer en conflit mondial? Chacun comprend bien aujourd'hui que le conflit peut dégénérer à tout moment. Par exemple, si la Chine décidait de mettre en œuvre son alliance scellée en février dernier avec la Russie pour se défaire de l'ennemi américain, ou si la Hongrie décidait de bloquer toutes les décisions du Conseil européen, comme elle l'a déjà fait lors des discussions sur le sixième paquet des sanctions de l'Union européenne, ou encore si des électeurs américains décidaient de voter à nouveau pour un chef de parti amateur des fake news et des réalités alternatives. Tout dépendra en fait de la réponse qu'on donnera à la question suivante. Quelle est, au XXIe siècle, la force la plus puissante capable d'accorder une véritable souveraineté aux États? Est-ce, comme le pense la Russie, mais aussi un certain nombre de chancelleries d'Europe occidentale, le droit qui doit se plier aux rapports de force militaires? Ou à l'inverse, comme le pense un certain nombre de pays, tels que l'Ukraine, le Royaume-Uni ou la Lituanie, est-ce la force du droit qui est supérieure à la puissance des armes? La réponse à cette question, âprement discutée partout en Europe aujourd'hui, est loin d'être évidente. En effet, à première vue, c'est l'armée russe, 20 fois plus puissante que l'armée ukrainienne, qui impose sa loi à ses voisins depuis plusieurs décennies du fait de la supériorité de son armée et de ses capacités nucléaires. On peut comprendre ceux qui affirment donc que, dès que Vladimir Poutine aura considéré qu'il a atteint ses buts de guerre, il sera nécessaire de négocier avec lui et de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte la perte de certaines de ses terres afin de ne pas humilier la Russie. Pourtant, face à la vision impériale, l'histoire nous enseigne que seule une victoire radicale de l'esprit est en mesure de mettre fin au ressentiment insatiable, à l'esprit de conquête territoriale et à la nostalgie de l'Empire. Chacun se souvient aujourd'hui de la fermeté et de la vision des grands hommes de la Deuxième Guerre mondiale. Winston Churchill, qui refusa tout dialogue avec Hitler, le général de Gaulle, qui condamna toutes les compromissions du régime de Vichy, ou encore tous ces héros de l'ombre qui acceptèrent de donner leur vie pour la résistance contre l'oppresseur injuste. Et surtout, l'histoire montre que c'est bien la puissance des imaginaires de justice au sein des peuples qui l'emporte au bout du compte sur les rêves de puissance des empires. C'est pourquoi, si réellement nous voulons mettre au conflit qui menace de s'étendre, si nous sommes convaincus aussi qu'il existe bien une vérité et une justice vers laquelle nous devons tendre à défaut de la posséder, car elles seules sont les forces les plus puissantes dont nous disposons, alors il convient d'adopter collectivement, par exemple au sein de la coalition de Rammstein, qui unit plus de 40 pays aujourd'hui, les 6 mesures suivantes. Premièrement, il faut armer rapidement l'Ukraine afin qu'elle puisse retrouver tous ses territoires perdus depuis 2014 de façon illégale. Cela signifie que même si les hostilités s'achèvent sur la seule récupération des territoires conquis par la Russie depuis le 24 février, il faudra maintenir les sanctions contre la Russie jusqu'à ce que la Russie cède les territoires acquis depuis 2014 grâce à des négociations diplomatiques. J'ajoute que si nous souhaitons éviter de nouvelles catastrophes, alors oui, il faudra affaiblir suffisamment le pouvoir en Russie pour éviter qu'il ne réactive d'une façon ou d'une autre son impérialisme pathologique et sa volonté d'affaiblir les démocraties occidentales. Deuxièmement, il convient non seulement d'accorder à l'Ukraine le statut de pays adhérent à l'Union européenne, mais il convient en plus de mettre en place un processus accéléré de son entrée effective au sein des institutions européennes, car, comme l'a dit le président du Sénat, Gérard Larcher, l'Ukraine a écrit en lettres de sang plusieurs des conditions exigées pour obtenir son entrée dans l'Europe. Bien entendu, ceci devra être accompagné d'un vaste programme de reconstruction économique de l'Ukraine et de mise en place par les Ukrainiens de mécanismes adaptés pour lutter contre toute forme de corruption. Mais c'est le droit, précisément, le droit européen qui permettra d'aider les Ukrainiens à lutter contre la corruption. Troisièmement, il est urgent d'isoler politiquement et économiquement la Russie de façon effective. Ceci signifie en premier lieu d'appliquer les sanctions et non de les changer à la dernière minute, comme ce fut encore le cas sur la question du cloud financier, et de cesser de financer la guerre en important des hydrocarbures de Russie. Ceci implique aussi d'exclure, au moins à titre temporaire, la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi de toutes les organisations internationales, dans la mesure où elle ne remplit aucun de ses engagements internationaux signés depuis 1945. Il suffit de mentionner la charte de l'ONU en 1945, mais aussi le mémorandum de Budapest en 1994, le traité russo-ukrainien de 1997, où la Russie reconnaissait les frontières de l'Ukraine et par laquelle elle s'était engagée à respecter l'intégrité des frontières ukrainiennes. Réciproquement, il conviendra de signer avec l'Ukraine un nouveau traité de sécurité avec tous les pays prêts à garantir de façon effective et rapide la sécurité du plus grand pays d'Europe en superficie. Rappelons que l'Ukraine s'est dénucléarisée en contrepartie de ces garanties promises par les pays du Conseil de sécurité. Quatrième point, il convient de prendre au sérieux les 10 propositions de notre commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cela signifie notamment de donner des financements aux ONG pour la mise en œuvre de ces propositions. Financements qui, je m'empresse de le dire, représentent un montant infiniment moindre que les 40 milliards de dollars débloqués par les États-Unis au mois de mai dernier et les 2 milliards d'euros déjà annoncés par la France de soutien militaire et humanitaire à l'Ukraine. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de présenter dans le détail chacune de ces propositions dont certaines, fort heureusement, ont été mises en œuvre depuis 2019, comme l'adoption d'une loi Magnitsky européenne, l'interdiction du Nord Stream 2, ou l'attribution de l'autocéphalie à l'Église d'Ukraine. Tout ça, ce sont des propositions que nous avions faites en 2019. Je vous encourage à prendre connaissance de notre rapport qui se trouve en ligne sur le site du Collège des Bernardins. D'autres propositions n'ont pas reçu à ce jour de financement. Chacun aura compris pourtant que la rédaction conjointe des manuels d'histoire basés sur ce que Paul Ricoeur appelait les regards croisés est indispensable. Même chose pour des manuels, vous l'aurez compris, d'ecclésiologie œcuménique ou encore des manuels de sciences politiques et morales. Tout ça est devenu plus qu'urgent, même si les effets de ce travail éducatif, bien entendu, prendra des années. De même, aucune paix durable ne sera possible avec la Russie tant que ne seront pas condamnés les crimes du régime de Vladimir Poutine, mais aussi tant que n'auront pas été jugés les crimes du communisme depuis 1917. Rappelons un seul chiffre, le Golodomor, la grande famine, entre 4 et 6 millions de morts en 1932, soit 20 000 morts par jour, chaque jour, pendant 6 mois. Ce crime-là n'a pas été ni jugé, ni condamné, et les crimes qui ne sont pas jugés sont des crimes qui se répètent. C'est la raison pour laquelle il convient de créer au plus vite, selon la recommandation de Philippe Sands, un tribunal spécial pour juger les crimes du régime de Vladimir Poutine, à commencer par le crime d'agression contre l'Ukraine, mais pas seulement. Mais il faudra créer aussi, comme le recommande Nikolaï Eplé, des commissions Vérité, Justice et Réconciliation en Russie, sur le modèle de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Cinquièmement, pour parvenir à mettre en place un état de droit en Russie, seule garantie véritable que la fausse théologie politique ne réapparaisse dans l'avenir, il faudra qu'une nouvelle génération de Russes se lève et prenne en main ses responsabilités. Il faudra que les Occidentaux aident ces Russes à accomplir ce travail de concertation, d'instauration de nouveaux rapports de confiance, de soins des plaies du passé, de définition consensuelle de leurs objectifs et enfin de leur mise en œuvre de façon solidaire. Les démocrates russes existent, mais personne ne veut vraiment les écouter, les aider et adopter des consensus pour les financer. Il faudra aussi qu'un jour, après que les Russes aient eux-mêmes accompli un travail de conscientisation de leurs responsabilités et de repentir, un travail de deuil et de pardon s'accomplisse au sein de la société ukrainienne. Ici, l'Occident ne peut pas faire grand-chose. On peut seulement souhaiter que le travail accompli par la nation allemande après 1945 puisse servir de modèle à la nation russe, même si l'on est parfaitement conscient du fait que le régime totalitaire nazi a duré infiniment moins longtemps que le régime soviétique et son excroissance actuelle. Pourtant, pour avoir vécu en Russie au début des années 90, pour avoir eu le bonheur de rencontrer d'authentiques démocrates et réformateurs comme Elena Bonner ou comme le père Alexandre Meigne, je suis absolument convaincu que la majorité de la population russe est en mesure d'accomplir un tel cheminement. Pour avoir également vécu longtemps en Ukraine, pour avoir rencontré de grandes figures spirituelles et intellectuelles, comme le dissident Evgeny Sverstiuk ou comme le cardinal Lubomir Guzar, je suis aussi certain que si les Russes accomplissent un tel cheminement, les Ukrainiens sauront trouver les ressources en eux pour que les générations futures parviennent à vivre avec leurs voisins du Nord et de l'Est. Le philosophe ukrainien Grigori Skovoroda était à la fois un ennemi sans indulgence des forces du mal, mais aussi un homme profondément imprégné de culture chrétienne et donc capable de pardonner l'homme repenti. Enfin, sixièmement, les Occidentaux pourraient jouer un rôle utile en prenant conscience eux-mêmes de leurs propres limites. En effet, rares sont encore les penseurs en Occident à admettre que de nombreux hommes et femmes politiques occidentaux ont contribué à nourrir la bête du ressentiment et de la nostalgie impériale en refusant au préalable que la Russie fasse un travail de jugement et de repentir des crimes du communisme. 100 millions de morts au XXe siècle, selon le livre noir du communisme de Stéphane Courtois. La vérité, c'est que l'Occident, bien souvent, a refusé de travailler sur le jugement des crimes du communisme. Et pour une bonne raison, puisqu'on se souvient de la puissance du Parti communiste en Europe des années 50 jusqu'aux années 90. En outre, de nombreuses élites occidentales se sont laissées elles-mêmes corrompre par les méthodes mafieuses mises en place par le Kremlin et parfaitement décrites par Catherine Belton ou Karine Davisha. Sommes-nous prêts aujourd'hui à sortir de notre amnésie, comme le souhaiterait le nouvel observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, mis en place par Alain Lamassoure au Conseil de l'Europe? Serons-nous capables de réhabiliter la vertu en politique contre Machiavel, comme le recommandent aujourd'hui des penseurs comme John Milbank et Adrian Pabst? Pourrions-nous redonner sa place à la théologie et à la métaphysique œcuménique, comme je l'ai recommandé à de multiples reprises ces dernières années? Je vous laisse, mesdames et messieurs, les académiciens, chers amis, tout le temps pour méditer à ces questions et espère avoir le plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Mais je voudrais donner le mot de la fin à l'un d'entre vous, précisément. Car toutes ces questions avaient été déjà posées par Alain Besançon, il y a de cela près de 30 ans, dans sa préface à l'histoire de l'Ukraine, de Arkady Joukovsky. Il résumait en 1994 tout l'essentiel des enjeux d'histoire et de mémoire de la relation Ukraine-Russie-Europe en deux phrases que je vous cite. L'Europe, écrivait-il, se montre extraordinairement craintive et frileuse. Il est de son intérêt d'aider cette nouvelle république au lieu ukrainienne, au lieu d'aider la seule Russie, sans être assurée que celle-ci a abandonné son irrédentisme et son impérialisme. » Fin de citation. Ainsi donc, comme l'expliquait Alain Besançon, la géopolitique de l'esprit n'est pas naïve. Au contraire, elle est ultra-réaliste et défend bien les intérêts des nations. Mais ces intérêts doivent être spirituelles avant d'être matérielles. Je vous remercie pour votre attention.
Magnifique analyse, merci beaucoup Antoine. Mais notre président est là, Rémi, je te rends la parole.
Merci infiniment, je dois commencer par quelques mots d'excuse. Voilà, j'ai dû substituer le métro que je voulais prendre et le remplacer par une navette beaucoup plus lente, d'où mon arrivée inopinée. Bon, je n'ai donc pu entendre que ton exposé, sauf 5-10 minutes à peu près. Bon, je dois commencer par avouer que la question du théologico-politique me concerne peut-être plus que d'autres. Et je trouve qu'effectivement, il faut savoir prendre le théologique, si je puis dire, au sérieux. Le fait que nos sociétés aient désappris cela n'empêche pas qu'il y a d'autres sociétés, dont celle dont tu viens de nous parler, pour lesquelles il s'agit là de quelque chose d'absolument central. Et même d'ailleurs, si tous les hommes concrets, toutes les personnes concrètes qui habitent ces pays, qui habitent ces régions de sang, tu as cité Snyder tout à l'heure, même si tout le monde n'en est pas conscient, eh bien, les mentalités, excusez ce mot imprécis et que je n'aime pas dans d'autres contextes, sont quand même profondément marquées par l'école par laquelle ils sont passés et qui est une école quand même avant tout théologique. Je ne parle pas des établissements d'enseignement, je parle de la manière dont le christianisme oriental est né et s'est développé. J'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs j'ai sursauté au moment où tu as cité à la fin le nom de notre confrère et ami très cher Alain Besançon. Je suis un petit peu surpris que tu n'aies pas cité, mais enfin, c'était sans doute implicite, son petit bouquin, La Sainte Russie, qui a l'avantage énorme de montrer justement à partir d'une spiritualité de tournure monophysite, ce qui apparemment ne dit pas grand-chose, mais enfin, qui implique, enfin, ne dit pas grand-chose aux gens qui ne sont pas férus de théologie, mais qui implique un court-circuit, si je puis dire, une manière de sauter par-dessus tout ce qui est moral et tout ce qui est droit, pour passer directement, si je puis dire, à la mystique. Alors il s'agit là, bon, je ne sais pas si Vladimir Vladimirovitch est un grand mystique, mais on a l'impression que c'est un petit peu comme cela que raisonnent les idéologues qui roulent pour lui. Alors, je rappelle également, puisque nous sommes entre académiciens, la formule qui m'a semblé extrêmement intéressante, bien que très concise, de Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrard d'en cause, qui a fait une distinction qui me semble lumineuse, je le répète, entre les pays qui ont un empire, ou en l'occurrence les pays qui ont eu un empire, la France par exemple, la Grande-Bretagne, bon, etc., et un pays qui est un empire, qui ne se comprend pas autrement que comme volonté de domination et éventuellement d'expansion, ce que l'histoire d'ailleurs a confirmé. Alors j'aimerais savoir si cela peut se concilier avec ce que tu viens de nous expliquer. Excusez-moi pour le tutoiement qui n'est pas très académique, si j'ose dire. Donc pourriez-vous cher ami, nous dire si cela entre dans vos réflexions.
Monsieur le Président, cher ami, cher Rémi, je crois que c'est une distinction effectivement importante que de distinguer entre les pays qui ont été un empire et les pays qui se pensent comme empire. Et c'est le cœur du sujet pour les prochaines années, pour l'opposition russe. Déjà, Garry Kasparov, le champion du monde des échecs, mais qui est aussi le leader de l'opposition russe, a déjà affirmé que dans la prochaine constitution russe, si la démocratie revient au pouvoir, il y aura un changement de constitution pour fédéraliser réellement et donner plus de pouvoir à la Douma pour éviter cette logique impériale. Toute la question est de savoir à quel point c'est possible. Et c'est là où l'apport des historiens est important, et notamment un historien russe que j'ai cité qui s'appelle Andrei Zubov. Et Andrei Zubov, qui est l'auteur d'une trilogie d'histoire de la Russie des origines à nos jours, lui explique qu'il faut sortir de cette mythologie de l'histoire russe qui ne se pense qu'impériale depuis l'histoire écrite par Karamzin, l'historien de Nicolas Ier, au XIXe siècle. Karamzin ne voyait que l'État dans le développement de l'identité russe depuis le choc traumatique de l'invasion des Tatars. Mais Andrei Zubov, lui, explique que l'erreur de Karamzin est de ne pas avoir vu la nation russe. Et la nation russe est bien apparue. On le voit quand on se promène sur la place Rouge à Moscou et on voit la statue de Minine et Pojarski. Cette statue, elle désigne le moment en 1610 où la nation russe s'est rassemblée pour que les boyards, le peuple, l'Église s'unissent pour défendre cette identité russe, mais pas dans un esprit impérial, dans un esprit, au contraire, de paix. Alors, ça a été à l'origine de la fondation de la dynastie des Romanov, qui ont plus tard rétabli l'Empire. Donc, ça a été une occasion perdue. Mais néanmoins, cela signifie que dans l'histoire de la Russie, il y a eu des moments, des courtes périodes, comme ça, comme au début des années 90, avec l'apport de certaines grandes figures comme Sakharov et d'autres, où la démocratie a pu apparaître, la nation a pu se manifester sans que immédiatement elle ne soit happée par cette fausse mythologie, cette fausse historiographie et cette nostalgie maladive de la Troisième Rome.
Eh bien, s'il y a des questions, je suis convaincu qu'Antoine Orjakovski aura la joie d'y répondre et de nous éclairer encore davantage. André Vacheron. Ça ne marche pas, le micro.
Ah non, on n'entend pas.
Appuie. Ah. Je changeais de micro. Éteint.
Finalement, la Russie, Poutine, redoutait l'entrée menacer la Russie. Je pense que c'est un argument parfaitement hypocrite, mais il a été souligné dans plusieurs quotidiens au début du conflit.
Écoutez, c'est une question importante, bien entendu, qui a fait l'objet d'échanges diplomatiques au mois de décembre dernier. Les pays de l'OTAN, les États-Unis ont refusé les arguments posés par la diplomatie russe et par Vladimir Poutine en disant la chose suivante. Premièrement, que l'OTAN est une alliance défensive qui menace aucunement la Russie. Deuxièmement, que la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas à l'ordre du jour. Et troisièmement, on voit bien que si, de fait, des pays se sont joints à l'OTAN dans les années 90, je pense en particulier aux pays baltes ou à la Pologne en 1997, c'est parce que librement, ils demandaient d'adhérer à cette union défensive. Voilà, c'est ça la position des pays occidentaux. Alors, on ajoute souvent, en France aussi, qu'il aurait été promis à la Russie, dans les années 90, que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est. Et donc, que c'est une forme de trahison, etc. Mais ça, il y a eu des études qui ont été publiées, notamment une étude de Chatham House, qui explique très bien que c'est un mythe que Gorbatchev lui-même a écrit dans ses mémoires, et ça a été repris par Evgeny Primakov, qui était ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, qu'il n'y avait jamais eu aucun texte écrit garantissant que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est. Il le regrettait bien, Primakov, mais c'était un fait qu'il admettait. Et donc, voilà, ça fait partie de cette mythologie qui est utilisée par la propagande pour dire « vous nous avez trahis ». Alors que la trahison, si trahison il y a, c'est la signature du mémorandum de Budapest en 1994, signé par la Russie, garantissant les frontières de l'Ukraine en échange de sa dénucléarisation. Et là, pour le coup, ça a été co-signé également par la France, par le président Mitterrand, par la Chine, et ça n'a par contre pas été mis en œuvre par la Russie. Voyez. Donc, du coup, l'Ukraine s'est retrouvée toute nue face à la deuxième armée du monde. Et c'est ça que disent les Ukrainiens, et notamment lors de la conférence de Munich, qui s'est tenue juste avant l'extension de la guerre au mois de février dernier, le président Zelensky est allé à Munich pour dire... Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y avait un statut de neutralité qui nous était garanti, qui ne fonctionne plus depuis l'annexion de la Crimée, trouver une solution, parce que sinon, ça va s'empirer et ça va être grave. Voilà. Et ça encore, ça a été exploité par la propagande russe pour dire, je crois que c'est Sergueï Lavrov, pour dire, regardez, il parle de renucléariser l'Ukraine, c'est un danger, etc. Donc là encore, on est dans le mensonge, tout simplement. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la Russie a perdu toute crédibilité et surtout toute confiance de la part des pays voisins, puisque qu'est-ce qui se passe ? La Suède et la Finlande, qui, jusqu'à présent, étaient hors de l'OTAN, demandent à faire partie de l'OTAN. C'est justement discuté ces jours-ci à Madrid, pour savoir si on va les intégrer ou pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui à Kaliningrad, on voit ce qui se passe avec la remise en cause de l'indépendance de la Lituanie, projet de loi qui a été déposé à la Douma la semaine dernière. La crainte des pays voisins de la Russie et donc la demande d'une protection militaire défensive.
Jean-Claude Trichet.
Merci beaucoup. Merci pour cet exposé absolument magistral et je dois dire extrêmement convaincant. J'ai deux questions. La première, la remarque selon laquelle c'est à l'Ukraine de décider ce qu'elle veut faire, si elle veut continuer à se battre jusqu'à reconquérir les territoires perdus ou ne pas réussir à reconquérir tous les territoires perdus, c'est clair. Mais pourriez-vous commenter la thèse selon laquelle il y a un certain cynisme de la part d'une partie de l'Occident qui encourage évidemment l'Ukraine à se battre et lui donne les moyens de se battre, l'encourage de manière extrêmement déterminée, l'aide par tous les moyens possibles, sauf la présence de soldats sur son sol, sauf l'engagement militaire contre la Russie elle-même, de sorte qu'on a un combat qui, à l'évidence, est extrêmement disproportionné. Est-ce que vous allez jusqu'à recommander qu'il y ait des soldats occidentaux sur le terrain, jusqu'à recommander qu'il y ait un meilleur équilibre au total, ou bien considérez-vous comme une évidence, que je crois moi-même, que nous sommes prisonniers de l'équilibre du deterrent nucléaire et que donc nous ne pouvons effectivement pas faire autre chose qu'aider un pays dont la disproportion des forces par rapport à son adversaire est absolument monumentale. C'était ma première question. La seconde, vous avez évoqué la première Rome, la deuxième Rome, la troisième Rome dont on a vu la complexité, le caractère multidimensionnel et la dangerosité. Est-ce que vous pouvez prolonger un instant sur la quatrième Rome, qui est Washington, qui imite elle-même dans ses monuments la première Rome, qui est un empire de facto et qui en réalité a le dialogue ultime avec le semblant de troisième Rome que nous avons à Moscou?
Alors, pour ce qui est de la première question, faut-il ou non envoyer des soldats français ou de l'OTAN en Ukraine, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas à l'ordre du jour, pour des raisons qu'on comprend. Un conflit à sa gradation, et on entrerait dans un conflit planétaire total. Là, on est dans une sorte de ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire que le président de la République dit que nous ne sommes pas en conflit avec la Russie, et néanmoins nous armons l'Ukraine, et néanmoins nous isolons la Russie, et néanmoins nous faisons un blocus des hydrocarbures, etc. Et néanmoins, par nos satellites, nos yeux sont en Ukraine. C'est-à-dire que nous aidons l'armée ukrainienne avec l'emploi de nos satellites. On parle également d'une présence forte d'agents secrets de pays occidentaux en Ukraine. Que ce soit, en fait, on est au XXIe siècle, où la question du territoire n'est plus celle du XXe siècle. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que, au même titre que les Russes menaient une guerre hybride contre l'Occident jusqu'en 2022, inversement, et cette guerre est devenue ouverte à partir du 24 février, inversement, ce qui se produit, c'est cette guerre hybride que conduit l'Occident à travers l'Ukraine contre la Russie. Il faut reconnaître les choses. Si nous ne les reconnaissons pas, nous perdons contact avec le réel. Mais je pense qu'il est prudent, effectivement, de maintenir le caractère hybride de cette guerre pour éviter une guerre ouverte qui pourrait dégénérer très vite et qui pourrait remettre en cause ce qui nous est le plus précieux, à savoir justement la primauté du droit sur la force. C'est ce que j'essayais d'expliquer dans cet exposé. Donc nous sommes d'accord. Maintenant, pour la question de la quatrième Rome, c'est vrai que du côté américain, il y a aussi une forte dimension messianique, c'est clair. Simplement, cette dimension messianique, elle s'est, au fil des décennies, au fil des siècles, assagie grâce à la puissance du droit. On voit combien la Cour suprême aujourd'hui aux États-Unis est importante. Ça reste le droit et non pas le prince qui prime. Et ça, je crois que c'est une grande différence. Et j'ajouterais que les Russes, lorsqu'ils disent qu'ils forment la troisième Rome, ils se réfèrent à un texte du moine Philothée d'un monastère de Pskov, absolument, et ce moine Éléazar, du monastère Éléazar de près de Pskov, disait « Nous sommes la troisième Rome et il n'y en aura pas de quatrième ». Ça veut dire qu'il y a une dimension eschatologique radicale qu'on ne mesure pas en France réellement et qui a été ravivée par des cercles fondamentalistes dès les années 90. J'étais à Moscou à ce moment-là et je suivais de près ce qui se passait autour de l'association Radonej, par exemple, des gens qui réellement considèrent que le salut il doit être apporté pas simplement aux Russes, pas simplement aux Slaves, mais à la terre entière. Donc, la dangerosité de ces théories de Troisième Rome qui ont été réactualisées en ce début du XXIe siècle m'effraie particulièrement, même si je suis parfaitement conscient qu'aux États-Unis, et il n'y a pas si longtemps, ce messianisme a pu être ravivé et lui aussi réhabilité.
Merci. Jean-David Lévite.
Merci infiniment pour cet exposé passionnant. Je voulais partager avec vous une inquiétude que j'ai. Est-ce que nous ne sommes pas au début d'une nouvelle guerre froide qui pourrait durer des décennies, mais qui serait à l'inverse de la première? La première a vu l'URSS et la Chine face à l'Occident. Une URSS qui dominait le duo et une Chine complètement sous-développée. Aujourd'hui, on risque de se retrouver dans une nouvelle guerre froide, mais avec en face de nous une Chine devenue la première puissance économique du monde à l'égal des États-Unis, qui s'arme à toute allure, avec une Russie devenue dominée par cette Chine, et de plus en plus, puisqu'elle s'affaiblit démographiquement, économiquement, à cause de cette guerre. Et cette nouvelle guerre froide a sa guerre de Corée. C'est l'Ukraine. Et la Corée est toujours divisée sur le 38e parallèle des décennies après la guerre de Corée. Et ce que je crains pour le continent européen, c'est qu'on se trouve dans cette même situation avec une Ukraine cassée en deux, sans possibilité de la réunifier, et une Chine qui s'imposerait en domestiquant en quelque sorte la Russie, avec pour conséquence une nouvelle guerre froide entre l'Occident, les États-Unis restant la première puissance de l'Occident de très loin, la Chine en face et un tiers-monde qui refuse de choisir entre ces deux pôles. Et donc ce que je crains, c'est que le continent européen, si ma spéculation pessimiste se révélait juste, soit le grand perdant. Notre continent serait de nouveau divisé, avec l'opposition entre un empire russe de plus en plus dépendant de la Chine, une Union européenne qui, face à l'Empire russe, devrait de plus en plus s'appuyer sur les États-Unis et des États-Unis obsédés par l'ascension de la Chine. Alors j'espère que je me trompe, mais je serais heureux d'avoir votre sentiment.
Je ne prétends pas, monsieur l'ambassadeur, avoir des lumières particulières sur ce que sera le 21e siècle, et je comprends tout à fait ce panorama que vous faites et qui est tout à fait crédible. Mon espérance, si je peux parler d'espérance, parce que le but, justement, d'avoir une analyse théologico-politique, c'est de pouvoir faire appel à des ressources qui ne sont pas uniquement celles du rapport de force. Et donc, si on peut faire appel à l'espérance, alors on peut penser que le régime russe n'est pas aussi puissant qu'il prétend l'être. Si réellement cette puissance russe aujourd'hui est comprise pour ce qu'elle est, or, finalement, c'est assez récent que nous acceptons de voir la Russie de façon aussi sombre, telle que je l'ai présentée, c'est-à-dire comme un État, c'est Timothy Snyder qui le dit, qui aujourd'hui doit être appelé un État fasciste. On n'était pas prêt à ça il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques jours, quand notre président parlait au téléphone avec le président russe, ce qui lui est reproché par un grand nombre de capitales, comme vous le savez. Donc, voilà, s'il y a une prise de conscience de la réalité du régime russe, si on se met d'accord là-dessus, parce que c'est une question qui ne fait pas consensus, eh bien, on sait quelles ont été les clés qui ont mis à bas un autre régime totalitaire dans le passé, qui a été le régime nazi. À savoir que, bien entendu, il y a eu un combat militaire, mais il y a eu aussi un moment où les élites ont quitté le pays, il y a eu un moment où l'Occident a formé une coalition. Là, il y a tellement de parallèles qu'on pourrait faire aujourd'hui entre le prêt du Lend-Lease américain ou la coalition de Rammstein et l'entrée des États-Unis dans la guerre à partir de 1941-1942. Le moment de la bataille d'Angleterre où les Anglais étaient seuls, un peu comme l'Ukraine aujourd'hui, à lutter dans le ciel contre les chasseurs allemands et les bombardiers allemands. Si, encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais si une analogie est possible, alors au bout du compte, ce qu'on a vu, c'est que la dynamique qui s'est mise en place, c'est quand même la dynamique d'un horizon de justice et de démocratie qui l'a emporté sur une vision absolument anti-humaniste, absolument effroyable. Donc, l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale me fait penser que si les démocraties se souviennent bien des fondements qui sont à la base de leurs principes, alors ce danger dont vous parlez, qui est réel, pourrait s'effondrer face à l'union, la solidarité et la cohésion de l'Occident.
Merci. Monsieur, excusez-moi, je ne pense pas vous connaître, mais...
Bonjour, merci de me donner la parole. Effectivement, je viens du monde des affaires et j'étais en poste en Ukraine pour un groupe français soufflé et on fait de l'export de grains arrêté aujourd'hui, à part par les voies terrestres. Merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question pour poursuivre sur la nature de l'idéologie du régime en Russie et à la suite de cette conception de la Troisième Rome, nihilisme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la conception, notamment du patriarche Kirill et des autorités russes, est d'une tendance nihiliste envers l'Ukraine notamment, mais qui irait aussi jusqu'à une nihilisme de soi, dans la mesure où ce qu'on voit à l'œuvre, c'est une logique d'anéantissement, et qu'en parallèle, les valeurs qui semblent être mises en exergue pour la Troisième Rome russe, et tourne autour du culte de la violence, mais une violence qui serait salvatrice, nécessaire, purificatrice. Donc, est-ce qu'on pourrait, et par là, la conséquence plus terre à terre, c'est de dire, est-ce que à un moment donné, si les Russes se sentent acculés, sans porte de sortie, est-ce que ça ne donne pas des craintes supplémentaires pour une escalade avec notamment des armes non conventionnelles, etc.
Le patriarche Kirill ne se pense pas comme nihiliste. Il pense au contraire qu'il lutte contre un Occident postmoderne qu'il voit comme nihiliste. Et donc lui, au contraire, il se voit comme celui qui peut apporter du sens. Pour moi, c'est un drame pour lui, pour l'Église orthodoxe et pour le monde, parce que cet orgueil, au bout du compte, il conduit à ce qu'il aille jusqu'à bénir une invasion, ce qui ne s'était pas produit dans le passé. Il y a eu le moment où Saint-Serge de Radonège a autorisé le prince Dimitri Donskoï à se battre contre les Tatars, mais c'était une guerre défensive. Là, c'est une guerre offensive. Donc, c'est absolument contraire à la doctrine sociale de l'Église orthodoxe. Et donc, c'est complètement dramatique de voir que l'armée russe, censée libérer l'Ukraine, eh bien, en réalité, bombarde des églises, bombarde des maternités, bombarde des bâtiments civils, y compris des églises appartenant au patriarcat de Moscou, ce qui a provoqué la colère des orthodoxes qui étaient encore restés fidèles jusqu'à présent au patriarcat de Moscou. Et ceux qui sont sous domination militaire russe, eux, ne peuvent rien dire, sinon ils sont immédiatement torturés, exécutés, etc. Donc, le patriarche Kirill vit un drame comparable à ce que Hannah Arendt a décrit aussi par rapport à l'idéologie de certains penseurs, de Goebbels à Himmler, etc. Donc, ils veulent apporter le royaume, ils veulent apporter la vérité, et ça n'aboutit en réalité qu'à la violence et à la guerre. Donc, c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Et je dirais, si on l'a compris, alors là aussi, le positif, c'est que d'une part, ça se soigne. C'est arrivé dans le passé, ce type de folie. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait par les Allemands dès 1920. C'est la fameuse déclaration de Barmen, avec des grands théologiens comme Karl Barth et d'autres, qui ont refusé une telle confusion du politique et du spirituel, et qui ont été à la base du renouveau des églises et de l'église protestante en particulier en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça c'est un point qui me paraît important, et je ne sais pas s'il y avait encore un autre aspect dans votre question. Il me semble que c'était...
Il nous reste peu de temps, donc Serge Sûr. Non, Serge Sûr d'abord, par ordre d'entrée en scène, puis Jean-Claude Casanova. Enfin,
excusez-moi, Guylaine. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'étais très intéressé par votre approche théologico-politique, qui, pour moi, est assez originale, en tout cas, à mes yeux. Et je voudrais, à ce sujet, vous poser plusieurs questions. La première, c'est sur cette dichotomie entre l'Empire et la nation. Parce que, si je me réfère à Andrei Gratchev, qui est un ancien collaborateur de M. Gorbatchev et qui a beaucoup réfléchi sur la Russie après l'URSS, lui considère que le problème de la Russie, c'est celui qu'a connu l'Empire ottoman voici un siècle, transformer un empire en État-nation. Et il considère que la Russie est aujourd'hui un État-nation et pas un empire. Et dans l'argumentaire russe pour envahir l'Ukraine, il y a cette idée qu'en réalité, il y a un seul peuple. Et donc, on nie l'existence d'une nation ukrainienne. Et on se fonde sur l'existence d'une nation russe qui englobe le peuple ukrainien comme étant une composante du peuple russe, ce qui est différent de l'URSS, où l'Ukraine était reconnue comme un État souverain, à la fois membre de la Fédération et État souverain. Et donc, ça n'est pas tout à fait un argumentaire impérial à mes yeux, parce que les empires sont multinationaux, alors que là, on se réfère à une seule nation. Et puis, je voudrais aussi vous poser deux ou trois autres questions. La première, c'est quel est le statut dans cette dichotomie que vous faites entre la nation et l'Empire? Quel est le statut théologico-politique que vous donnez à l'Union européenne, qui n'est ni une nation ni un empire? Et enfin, deux questions plutôt juridiques. Vous avez dit qu'il conviendrait de suspendre, voire d'exclure la Russie du Conseil de sécurité. Comment faire? Parce que je ne vois pas juridiquement comment c'est possible. Je ne vois vraiment aucun moyen d'y parvenir. De la même manière, et c'est ma dernière question, vous avez évoqué la possibilité de créer un tribunal spécial pour juger le crime d'agression commis par la Russie. Bon, il y a eu des tribunaux spéciaux, mais ils ont été créés par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, la Russie y est. Elle dispose d'un droit de veto. Donc comment pourrait-on créer un tel tribunal spécial? Et qui lui donnerait compétence? Quelle serait sa légitimité? Voilà quelques questions que je me permets de vous poser, mais qui soulignent vraiment tout l'intérêt et tout les réflexions qu'appelle votre conférence.
Merci. Je vais essayer de répondre brièvement parce qu'on pourrait en parler vraiment très longtemps. Et ça a été l'objet justement des discussions que nous avons eues dans le cadre de notre commission. En particulier, l'une des propositions que nous avions faites, je n'ai pas eu le temps de les détailler toutes, c'est de revenir sur la question du droit de veto au Conseil de sécurité. En particulier, notre proposition est de permettre à l'Assemblée des Nations Unies d'outrepasser le droit de veto, l'utilisation du droit de veto par un des membres du Conseil de sécurité, lorsque la paix n'est pas garantie par les décisions du Conseil de sécurité. Dans la Charte des Nations Unies, la mission du Conseil de sécurité, c'est de garantir la paix. Si on voit que dans une région comme la Syrie ou l'Ukraine, il y a un blocage du Conseil de sécurité, alors il doit être possible pour l'Assemblée des Nations Unies de faire appel à la décision du Conseil de sécurité d'utiliser son droit de veto. Malheureusement, cette proposition que nous avons faite n'a pas été entendue. J'en ai parlé, bien entendu, au Collège des Bernardins, un certain nombre de grandes figures qui passent régulièrement, qui nous ont soutenus, des gens comme Pascal Lamy, par exemple, ou d'autres, considèrent que c'est une proposition tout à fait valable, qu'il faut faire évoluer le droit international, et que c'est en ne faisant pas évoluer le droit international qu'on bloque le droit international. Donc voilà, ça c'est la première chose qui est de se rappeler de la Charte des Nations Unies. Et du coup, je vais plus loin. Si on se rappelle de cette Charte des Nations Unies, signée par l'Union soviétique, on peut de fait poser la question de la place de la Fédération de Russie. Il n'y a pas eu de vote à proprement parler de l'Assemblée des Nations Unies sur l'entrée de la Fédération de Russie au sein du Conseil de sécurité. Ça, c'est un point aveugle. C'est un point qui s'est passé comme ça au début des années 90 pour maintenir la paix, soit. Sauf que la paix, elle n'est pas maintenue. Et d'où cette proposition pour éviter qu'il arrive aux Nations Unies ce qui est arrivé à la Société des Nations, parce que ce sont des institutions, malgré tout, humaines, même si on a l'impression qu'elles sont éternelles, pour éviter qu'elle ait ce même sort, eh bien, de faire évoluer le droit international et de permettre qu'à titre temporaire, cette fédération de Russie soit exclue, compte tenu du fait que ce qu'on observe depuis 20 ans, c'est la montée du chaos dans toutes les régions qui entourent la Russie, en particulier l'Ukraine. Donc, voilà une proposition qui, bien entendu, ne peut fonctionner que si les opinions publiques s'en saisissent, que si les grands États comprennent le danger que ça représente, mais qui n'est pas du tout utopique si on tient compte, encore une fois, de ce qui s'est passé dans les années 30. Et donc, dès lors que la Russie peut être mise de côté des institutions, compte tenu du danger qu'elle représente, eh bien, un tribunal spécial sur l'Ukraine est tout à fait envisageable. Maintenant, je reviens sur les questions précédentes par rapport à l'Union européenne. Alors, c'est ça, la distinction entre un empire et un État-nation tel que le comprend Ernest Renan. L'État-nation repose sur une conscience morale. Et c'est ça qui lui permet d'agréger des populations qui ont des langues différentes, des religions différentes, des cultures différentes. C'est ça qui fonde le principe d'un État-nation. Et donc, pour des grandes figures en France comme Jacques Delors, il faut comprendre l'Union européenne comme une fédération d'États-nations démocratiques. C'est ça qui permet de penser, même si ça apparaît comme un paradoxe, mais l'Union européenne comme une fédération d'États-nations dont le ciment est justement cette conscience morale de la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Donc c'est ça la différence. Et à ce titre, et vous l'avez très bien dit, la Russie, elle, impose une vision de l'Empire fondée sur le primat de l'orthodoxie, le primat de la langue russe, l'invasion du Donbass, où l'annexion de la Crimée a été basée sur l'idée que, puisqu'ils parlent le russe en Crimée, ils sont russes. Et s'ils sont russes, on doit les récupérer. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de récupérer la Belgique parce qu'il y a des Wallons francophones en Belgique. Mais dans une logique impériale, ça devient possible. Et c'est ça la grande différence entre la vision impériale et la vision, au sens d'Ernest Renan, de la nation.
Peut-être une dernière question, celle de Jean-Claude.
Merci, Monsieur le Président. Je remercie beaucoup l'orateur de cet exposé très vaste sur l'évolution des rapports entre l'Ukraine et la Russie et la situation présente. Je voudrais faire deux remarques, l'une concernant la notion d'empire et l'autre concernant la situation actuelle. En ce qui concerne la notion d'empire, je voudrais rappeler que dans le siècle de Louis XIV, Voltaire rappelle que la monarchie française n'a jamais reconnu l'Empire russe. La monarchie française ne reconnaît qu'un seul empire. La preuve est que François Ier a été candidat à être empereur et que Louis XIV a lui-même été candidat à être empereur. Ils ont été tous les deux battus à l'élection fixée par la règle d'or, mais François Ier a été battu parce que les princes électeurs considéraient que le roi de France augmenterait les impôts dans l'Empire. Mais on reconnaissait au tsar un titre de courtoisie, mais on ne lui reconnaissait pas d'être un empire, c'est-à-dire de gouverner la pluralité des peuples, ce qui est la vraie définition de l'empire. Si vous voulez, l'empire, par rapport à la monarchie nationale ou à l'État-nation, c'est la pluralité des peuples, la pluralité des composantes, alors que l'État-nation ou la monarchie nationale, c'est un seul peuple d'une certaine façon. Mais n'a été reconnu comme empire par la France que quand la menace allemande est apparue, si vous voulez. C'est Napoléon, d'une certaine façon, est le premier à avoir reconnu l'Empire russe, et ensuite Napoléon III et la Troisième République. Mais sous Napoléon III, je rappelle que quand le tsar est venu à Paris, les républicains célèbres l'ont appelé « monsieur » et ont refusé de lui donner le titre impérial. Mais sont des digressions historiques, je voudrais revenir sur la situation présente. Dans la confrontation entre les démocraties occidentales et la Russie, incontestablement, les démocraties occidentales sont du côté de l'Ukraine et participent au conflit en armant l'Ukraine et en exerçant des pressions sur la Russie. Il n'est pas sûr que l'armement de l'Ukraine et les pressions exercées aboutissent. Et on peut se retrouver dans une longue période belliqueuse, même éventuellement dans une victoire militaire de la Russie, et un avenir incertain des relations entre l'Occident, la Russie et la Chine, d'autre part. Mais il y a un élément nouveau qui est apparu par rapport à l'ancien schéma de la guerre froide. Dans l'ancien schéma de la guerre froide, la Russie était une tyrannie, et la Chine aussi, idéologique, fondée sur le marxisme-léninisme, mais également fondée sur l'autarcie économique. Et le phénomène nouveau qui est apparu depuis un quart de siècle, c'est que les régimes autarciques ne sont plus fondés sur le marxisme-léninisme, mais ils sont fondés sur le nationalisme, de façon tout à fait classique. Je n'ai pas besoin de théologie pour comprendre ça. Xénophon l'a expliqué. Le tyran a deux caractéristiques. Premièrement, il a peur. Il a peur de perdre le pouvoir. Deuxièmement, il a besoin de créer un lien très fort avec la population. Alors, comme il n'y a pas le marxisme-léninisme, il y a évidemment le nationalisme. Il n'y a pas d'autres religions séculières disponibles, si vous voulez, dans le monde actuel. Simplement, les deux tyrannies actuelles, la tyrannie qui se sont développées depuis 20 ans, d'une certaine façon, la tyrannie chinoise et la tyrannie russe, ont comme caractéristique de vouloir bénéficier de l'économie mondiale sous l'angle commercial et sous l'angle financier. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que les tyrannies anciennes étaient des tyrannies autarciques. Autrement dit, ce sont des tyrannies qui, avec le nucléaire, bénéficient de la dissuasion. Il est impossible de leur faire la guerre au risque de la catastrophe mondiale. Donc, ils ont une protection militaire, mais ils veulent participer à l'économie mondiale, c'est-à-dire qu'ils veulent augmenter le niveau de vie de leur population, ce n'est rien d'autre, pour resserrer le lien. Et donc, l'arme cachée, l'arme secrète, peut-être, des démocraties occidentales, c'est à long terme la pression économique, c'est-à-dire faire comprendre aux tyrannies nouvelles que la participation à la finance mondiale et à l'économie mondiale exige des contreparties politiques.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle ces 6 paquets de sanctions qui ont été adoptés par l'Union européenne sont capitales, et notamment le blocus des hydrocarbures, puisque les hydrocarbures, ça représente près de 50% du budget de l'État russe. Donc, bloquer les importations d'hydrocarbures, c'est mettre à mal la capacité de l'État russe à payer les retraites, etc. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous.
Puisque vous prenez la parole, je vous la donne.
Ma question est très brève. Finalement, si le président Poutine décédait là, qu'est-ce qu'il arriverait, à votre avis éclairé ?
Ben, on l'enterrerait.
Oui, oui. Non, la question doit se poser parce que plus on anticipe et plus on évite l'anarchie. Il peut très bien, on voit déjà qu'un certain nombre de candidats à la succession se présentent avec des discours extrêmement durs, que ce soit Dmitri Medvedev ou M. Kirienko, en charge de l'Ukraine actuellement au Kremlin. Donc il peut y avoir un tournant encore plus violent, comme il peut aussi se passer, comme c'est le cas souvent après des dictatures, comme ça a été le cas après Ivan le Terrible, un effondrement. Comme ça a été le cas au moment de la perestroïka, un effondrement de la Fédération de Russie qui ne fonctionne pas du tout comme une fédération, qui est au contraire très verticale. Donc, voilà, pour éviter un chaos, pour éviter que des candidats comme Kadyrov et d'autres ne sèment le désordre, il me paraît important que d'investir, c'est ce que je disais dans mon exposé, sur l'opposition démocratique russe, qui considère qu'il y a une nation russe, qu'il y a une démocratie russe, qu'il y a une histoire russe et que cette histoire est européenne. Malheureusement, nous ne les voyons pas, mais moi, pour ma part, au mois de septembre prochain, je vais organiser une rencontre avec le Forum Normandie, organisé par la région Normandie à Caen, avec un certain nombre de ses opposants, pour leur permettre de faire finalement ce que Vaclav Havel avait fait dans les années 70 avec la charte 77, une base de consensus pour prendre... pour donner suffisamment confiance à la population russe qu'une alternative à l'autocratie est possible en Russie.
Bien, nous avons mordu sur l'horaire, donc je suis bien obligé de déclarer la séance achevée, non sans renouveler mes remerciements envers Antoine Arjakovski et les questions si pertinentes, ceux qui ont posé des questions si pertinentes. Merci donc.
Merci beaucoup. Merci.